Il s'affiche aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis. Et
c'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, ça, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Une fois de plus, on est dans le bureau de Line-Up à Restanque. Et j'ai le plaisir d'inviter un tout nouvel invité, Kuro. Salut.
Salut, merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Aujourd'hui, on va profiter en fait d'une actu que tu as pour découvrir ton univers, ton parcours, ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et on parlera de cette expo qui est quand même une grosse expo pour toi, j'ai l'impression.
Oui, ouais. À la première en galerie, en solo. Hein.
Ok, rien que ça. Voilà. Parce que moi je te connais un petit peu, mais les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément. Donc, qui es-tu?
Je vais essayer d'être concis.
On a le temps, on a le temps. Bon. Donc, vas-y, hein, justement, c'est le moment de parler.
De développer un peu.
De développer, de dire qui tu es, d'où tu viens.
Je m'appelle Malik, je suis plus connu sous le pseudonyme Kuro222. Mm-hmm. Je viens de Montpellier, je suis un pur produit montpelliérain.
Ah ouais?
Ouais, c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a très peu.
Ouais.
J'ai fait plus jeune des études en design graphique. Mm-hmm.
C'est là où tu as connu nos compères.
Exactement.
Mara et Julien Bariol.
Exactement. C'est là où j'ai rencontré ces bons vieux Mara et Julien Bariol. Très honnêtement, le design graphique, ça ne m'a pas trop plu. Enfin, j'ai fait pas mal de com, de logos, de choses comme ça. C'était pas forcément ma tasse de thé.
Ouais.
Mais via ces études, c'est vrai que je me dirigeais peut-être plus vers une carrière d'illustrateur ou en tout cas, il y avait quelque chose autour de plutôt de l'illustration à ce moment-là. Mais les hasards de la vie ont fait que pendant les études, effectivement, j'ai rencontré Mara, avec qui j'ai pu expérimenter le collage. Et après, moi, de moi-même, j'étais intéressé par le graffiti, donc j'ai fait du graffiti. Donc là, il y a eu cette dimension un petit peu street art qui est arrivée, quoi. Et en tout dernier, après mon BTS en design graphique, j'ai quand même fait une petite année de fac. Durant laquelle je me suis fait tatouer.
Ah.
Et à partir de là, il y a eu une petite idée qui a germé de « Tiens, et si je m'essayais aussi au tatou ?» Donc, pour, entre guillemets, finir, il y a eu l'introduction au tatouage. Quoi.
Au tatouage, ok. Donc, et toi, quand t'es rentré en BTS, en design graphique, déjà, pourquoi, en fait, ce BTS-là? Pourquoi t'as choisi? Il y avait quand même déjà quelque chose avec le dessin, avec la création?
Eh bien oui, c'était assez... Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est tardif, mais moi, très honnêtement, c'est pas avant la terminale au lycée que j'ai voulu poursuivre peut-être dans une voie artistique, parce que avant ça, j'y pensais même pas. Mm-hmm. Et pour moi, tout ce qui était du domaine des arts graphiques et de la création visuelle, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais c'est... Enfin, j'étais en mode, c'est pas un métier, quoi, ce truc-là.
Okay.
Donc vraiment, j'étais le cliché de... Voilà. Et non, j'ai eu beaucoup de chance en terminale en fait de pas mal m'ennuyer en cours, de beaucoup dessiner dans mes cahiers et d'avoir en fait des amis qui ont dit mais t'es bête, enfin arrête, enfin tu vois bien que t'as un truc, arrête de dessiner dans tes cahiers, achète un bloc de feuilles et dessine parce que je pense qu'il y a quelque chose.
Okay.
Et donc bêtement moi j'ai écouté, j'ai acheté des feuilles, j'ai acheté le premier feutre de dessin on va dire quoi. Et je me souviens très bien, j'ai fait un dessin. Et je me suis dit,
c'est trop bien.
Non seulement je me suis dit c'est trop bien, mais je me suis surtout dit, pourquoi je me mens à moi-même? Parce qu'arrivé en terminale, je savais pas ce que j'allais faire plus tard, mais je me disais, j'irai en, je sais pas, fac d'économie. Enfin, en fait, je me disais, je vais faire un truc...
Un truc par défaut.
Random,
quoi.
Par défaut, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, mais ce que j'aimais, c'était ça, quoi.
Et oui. Tu t'es découvert...
Merci les copains.
Ouais, voilà.
Finalement.
Ouais, des fois, on n'a pas forcément le truc de suivre ce qu'on fait comme ça, bêtement, quoi. Ok, donc tu faisais aussi partie de ces gens qui ont toujours dessiné finalement, qui ont toujours gribouillé sur un bout de page.
Plutôt, ouais.
Et donc BTS design graphique.
Oui, Pas totalement, comment dire, c'est, ça restait un choix, mais c'était, c'est un BTS que j'ai fait, qu'on est plusieurs à avoir fait à l'issue d'une année d'études qui, à l'époque, on appelait ça des mises à niveau en art appliqué.
Ouais, des manas.
Mana. Mmh. Mana qui, franchement, c'est très bien passé, et de laquelle je garde des très bons souvenirs, mmh. Aucun souci là-dessus, mais à la suite de laquelle il fallait choisir des potentielles voies, et au sein de l'école dans laquelle on était, il y avait plusieurs voies qui s'offraient à nous. Il y avait notamment du cinéma d'animation 3D, mais moi, c'était pas ce que je voulais faire, du design d'espace. Mais il y avait aussi la possibilité de faire ce qu'ils appelaient à l'époque un CPI, cycle professionnel d'illustration. Mm-hmm. Et pour être très honnête, que ce soit moi ou quelques autres collègues, notamment ce cher Julien Bariol, on était quand même un peu plus intéressés par le CPI.
Okay.
Et en fait, c'est les professeurs qui nous ont dit « Mais non, faites plutôt le BTS design graphique parce que, et c'est vrai, l'illustration est une branche du design graphique. » mais du coup, dans le design graphique, vous allez toucher à plus de choses, du multimédia, okay. etc.
Okay. Donc, c'était plus ouvert, quoi.
C'est ça. Donc nous, on s'est dit, bon, ben, c'est vrai, remarque, autant avoir plus de cordes à son arc. Mm-hmm. Mais avec le recul, ben, déjà, le CPI, c'était 3 ans, le BTS, c'était 2 ans.
Okay.
Et on connaît des gens qui sont allés et il n'y a pas photo. Alors, je ne dis pas, effectivement, professionnellement parlant, peut-être qu'il y a moins de voix, ça c'est sûr. Par contre, en termes d'apprentissage pur, nous, on connaît des personnes qui sont allées, qui ont fait les 3 ans, qui, très honnêtement, était pas extraordinaire en descendant en y allant, quoi.
Ah ouais.
Et en fait, là-bas.
Qui ont beaucoup appris, quoi.
Bah, c'est ça, n'importe qui faisait la CPI ressortait nécessairement avec un niveau quand même assez correct, quoi.
Ok.
Donc, il y a eu des petits, en tout cas pour ma
des
part.
Des petits regrets.
Des petits regrets. Après, mais comme la vie est marrante, des fois, des regrets au début, et puis finalement, sur le long terme, moins de regrets, parce que. Mais bon, là, on rentre un peu dans du technique, parce qu'à force de faire du dessin, de la peinture, des choses comme ça, d'aller à des expos, de s'intéresser à ce milieu-là et de déguiser un petit peu son œil. C'est vrai qu'on est plusieurs à s'être rendu compte que par contre, des fois, des gens qui sortaient d'école avec des formations comme ça assez conséquentes, mm-hmm. Faisaient un super travail, mais ça se on voit qu'ils sortent.
Quoi.
En fait, c'est ça.
Okay.
On voit qu'ils sortent d'un moule commun.
Okay.
Donc finalement, je me suis dit bon, ben au moins, on a peut-être pu un peu plus expérimenter par nous-mêmes et développer, entre guillemets, notre propre style,
ouais.
sans être trop influencé par peut-être des professeurs qui nous auraient
ouais,
vraiment...
Peut-être que du coup, vous êtes... Enfin, peut-être que la créativité, elle est un peu plus là où elle est un peu plus infusée chez vous. Eux, c'est vrai qu'il y a peut-être un parcours académique qui a fait que ça les a enfermés, peut-être...
Je pense, en
dans un dans une façon de faire, dans un style, etc. Ok, et puis, de toute façon... C'est pas perdu, puisque j'imagine qu'aujourd'hui, quand même, les connaissances que t'as eues dans le design graphique, ça te permet aussi de faire des choses pour ta com, ne serait-ce que pour ça.
Clairement. Bon, alors, je suis pas un très bon graphiste, mais en termes de connaissances, de compétences techniques, oui. Et puis après, il y a aussi, bon, bah, c'est bête, mais les rencontres que ça m'a permis de faire, notamment en ce qui concerne, bah, par exemple, l'univers de la bande dessinée, parce que mmh. grâce à ces études-là, j'ai pu faire un stage dans la maison d'édition 6 pieds sous terre,
okay.
qui est une super maison d'édition que je pense pas mal de gens qui sont adeptes de la bande dessinée un peu alternative connaissent. Donc ça a été une super rencontre humaine qui m'a beaucoup appris, et c'est aussi via cette rencontre, c'est marrant, finalement, que j'ai pu me diriger vers le tatou, parce que c'est une personne de la maison d'édition avec qui je me suis lié d'amitié, qui elle-même connaissait une tatoueuse, me l'a présentée, et en fait, c'est cette tatoueuse qui m'a permis de mettre un pied dans ce monde-là. Donc, en fait, rien n'est perdu, tout peut servir à quelque chose.
Ouais, hein. Bah oui, complètement. Et puis, c'est des connaissances que tu gardes et qui te servent d'une façon ou d'une autre, même si tu dis t'es pas un très bon designer graphique ou quoi, mais je pense que tu gardes quand même des choses que t'as appris, tu vois.
Clairement. Ouais.
Et puis, ça, tu t'en resserres, quoi. Pour parler du coup de ton univers, t'as un univers qui est très particulier, t'as une vraie identité qui est très marquée, enfin qui est très reconnaissable, et que du coup tu déclines sur les tatous en fait finalement.
Oui, c'est vrai.
Parce que ouais. c'est vraiment tes persos, ton univers que tu tatoues, ça doit quand même être plutôt cool de.
C'est vrai que c'est.
De pas faire des signes infinis et des chiffres romains à tire l'arigot.
Bon, j'en ai fait un peu comme tout le monde.
Ceux qui nous écoutent et qui ont des tatous comme ça, on ne juge pas. Pas trop, du moins.
C'est normal, c'est normal. Mais oui, c'est vrai que c'est une chance, ouais, d'avoir des personnes qui viennent. De pouvoir décliner effectivement des personnages un peu récurrents dans ce que j'ai pu faire, que ce soit sur des murs, des dessins d'étoiles ou du tatouage. Effectivement, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'il y a une dimension quand même, pour que quelqu'un le veuille sur sa peau.
C'est ça.
C'est que, bon, là, les gens ont pu être touchés. Et moi, ça permet aussi de d'étendre cet univers à plusieurs supports, quoi. J'avais fait des t-shirts aussi par le passé, mais j'ai envie de pouvoir l'étendre au maximum. Et ça m'a permis, en fait, de développer des choses. C'est assez intéressant, mais ça, souvent, certains domaines qui pourraient paraître en très différents d'autres domaines, finalement, c'est ça qui m'a permis de progresser. Par exemple, notamment, si on rentre dans des termes techniques, dans le tatouage, il y a des choses qui font qu'on n'a pas des possibilités infinies par rapport à ce qu'on pourrait faire sur une feuille de papier, une toile ou même un mur.
T'as moins de médium. Hein,
en fait, c'est ça. Et notamment aussi par rapport au vieillissement et au côté la tenue dans le temps d'un tatouage. Et par exemple, en tatou, quelque chose qu'il faut toujours éviter, c'est trop de détails sur une petite surface. Et donc finalement, ça paraît tout bête, mais grâce à ça, le tatouage m'a appris quand même à être parfois plus synthétique.
Ouais.
Et donc ça a été bénéfique évidemment pour le tatou, mais en fait ça a été très bénéfique pour aussi des travaux de dessin et de peinture.
Ouais.
Parce que moi qui étais quelqu'un de très, comment dire, peut-être assez intense dans la création, qui avait tendance à beaucoup, beaucoup charger.
Ouais.
Ça m'arrive encore aujourd'hui, mais ça m'a permis d'apprendre quand même à me contenir. Et bon, j'aime pas trop les phrases un peu toutes faites, mais c'est vrai que la fameuse phrase que je pense qu'on a beaucoup tous entendu, le fameux « less is more », effectivement, j'ai l'impression que, quels que soient les artistes et les milieux créatifs, quand on s'améliore dans sa pratique, on se rend compte qu'effectivement, des fois, faire mieux, c'est pas faire plus, mais justement, c'est savoir faire les choix de qu'est-ce qu'on enlève.
Exactement.
Quoi.
Bah, c'est quelque chose que si tu discutes avec Franck Noto, il te le dira.
Ah, bah ça.
Alors, c'est marrant parce que ça faisait longtemps que je citais pas Franck Noto dans un épisode de Terrain Vague, alors qu'il est pas là. Mais oui, en fait, c'est ce truc d'aller à l'essentiel et de retirer le superflu et en fait de voir que finalement le message ou l'émotion qu'on veut transmettre, c'est intact. Alors que tu as quand même dépouillé finalement ton œuvre de plein de choses que quelques années en arrière t'aurais mis parce que tu dis ouais mais il faut que on sente que machin que ce soit comme ça.
C'est ça. Il y a des choses assez c'est de la forme quoi et ça peut être chouette aussi hein mais et c'est marrant parce qu'on le voit aussi dans des domaines qui sont pas les arts visuels. Enfin moi par exemple je suis un grand amateur de rap et j'aime vraiment tous les types de rap, que ce soit du rap très old school, que ce soit des choses de la new wave ou des choses qui partent presque dans de la techno, etc. Qu'on a aujourd'hui quoi. Mais c'est vrai que dans certains morceaux de rap un petit peu plus anciens que j'ai beaucoup apprécié, il y avait souvent par exemple pouvait avoir un étalage d'un vocabulaire très recherché quoi, presque un petit peu académique quoi.
Ouais.
Là où peut-être aujourd'hui je vais être touché par des textes qui sont plus simples et qui pourtant vont avoir plus d'impact émotionnel.
Ça va être plus percutant finalement.
Mais en fait c'est ça, et tu te rends compte qu'en fait c'est pas forcément le fait de mettre un maximum de vocabulaire très cherché pour habiller et dire regardez il y a un certain bagage intellectuel. Et des fois ce qui est beau justement c'est d'évoquer une idée forte avec très peu de choses et avec des choses qui peuvent être vraiment accueillies par le plus grand nombre. Quoi.
Ouais, carrément.
Et je trouve que ça, c'est une vraie force qu'ont les artistes. Quoi.
Mais c'est clair, mais c'est comme quand tu écris de manière générale aussi pour voir faire passer, pareil, un message ou faire ressentir quelque chose à une personne, mais en peu de mots, ou en tout cas, de ne pas avoir besoin de faire des pages et des pages. C'est, comme tu dis, c'est une force parce qu'au final, le message, il est le même, il est aussi percutant. Mais t'as réussi à le synthétiser et à aller à l'essentiel, quoi. C'est ça.
Tu sais que tout le monde n'arrive pas à le faire, donc c'est un grand respect.
Non, c'est clair.
Un grand respect à ceux qui y arrivent.
Qui arrivent à être synthétiques comme ça. Donc ouais, le tatou, ça fait longtemps que tu fais ça.
Oui, quand même. Hein, ça va faire 7 ans.
Ah oui, quand même.
Le temps passe vite. Bon, alors après 7 ans, mais c'est vrai que je suis un petit peu un cas particulier dans le sens où je suis à mi-temps, on va dire. Je suis un tatoueur.
Ouais.
Je suis pas un vrai tatoueur au sens.
T'as jamais été ton activité principale à fond.
J'ai quand même fait deux, trois ans au début de ça à fond toutes les semaines, tous les mois.
Okay.
Et ensuite, c'est vrai que justement, durant ces années, il fallait apprendre. Donc pour apprendre, il y a pas de secret. Il fallait bosser aller, quoi. Mais effectivement, une fois que j'ai un petit peu plus appris, que la technique était rentrée, et ben là, il y a eu une envie de revenir aussi un peu à la rue déjà, tout ce qui va être fresque murale, et à la création personnelle, que ce soit sur feuilles ou toiles. Et c'est vrai que pendant ces années-là, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu du tatou, et je dirais pas que j'avais une charge de travail, il y a bien pire hein, dans la vie, mais je n'ai pas tant eu le temps de créer, et c'est vrai que
ça t'a manqué.
C'est à partir de là que je me suis dit, bon là, quand même, il y a il y a quelque chose que tu avais commencé à développer, que tu as presque mis en pause et qui serait peut-être temps de reprendre, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien que c'était notamment après une discussion avec Kenny à un événement qui était organisé par Line-Up à Juvignac, le festival 34 degrés.
Tout à fait.
Et c'est là où ça m'a pas mal fait réfléchir, où je me suis dit, bon, je vais mettre un petit coup de frein sur le tatou et je vais me remettre à peindre sérieusement, quoi. Et donc, d'une certaine manière, je dois dire merci, merci Line-Up, parce que ça a été assez décisif et j'ai un peu foncé la tête dans le guidon et je pense que ça m'a permis d'expérimenter, de beaucoup progresser et je suis relativement content de ce que ça va, entre guillemets, permettre de proposer à ma prochaine expo, parce que je pense que il y a tout un travail de peinture qui a été fait. Moi, je suis autodidacte, j'ai jamais eu de cours de peinture, quoi, même quand j'étais étudiant. Mais grâce à ça, ça m'a permis de vraiment beaucoup, beaucoup peindre et de me familiariser, avec un travail d'atelier finalement, quoi, sur toile. Et c'est super parce que j'ai découvert quelque chose qui m'apaise énormément, qui me fait beaucoup de bien
Et qui t'épanouit, quoi.
Ah bah là, franchement, ouais.
Donc en fait, toi, t'as trouvé un équilibre finalement entre les deux, le temps où tu tatoues et le temps où t'arrives à peindre, parce qu'à un moment donné, il faut aussi vivre.
En fait, c'est ça, c'est ça. C'est un peu périlleux de jongler entre les deux, de parfois, un projet de fresque par ici, des tatoues par là, un collectionneur qui est peut-être intéressé par une toile, donc ça fait beaucoup de casquettes différentes, mais effectivement, c'est chouette, et puis même sur un côté plus personnel. Étant donné que moi je travaille pas, j'ai la chance d'avoir un petit atelier, mais je suis tout seul. Mmh. Et donc c'est vrai que je connais des artistes qui travaillent dans des ateliers seuls et qui disent il y a quelque chose qui peut parfois être un peu compliqué dans cette solitude, de pas avoir d'échange ou quoi. Et donc moi j'ai cette chance que effectivement à l'atelier je suis seul, c'est une chose, mais en fait grâce au tatouage je suis confronté à des gens. Donc en fait ça permet vraiment d'avoir un enrichissement social et d'avoir entre guillemets ma dose de lien social, parce que je reste un être humain.
Complètement.
Donc c'est un très bon équilibre. Quand j'ai eu trop de périodes très très sociables, se retrouver à l'atelier c'est un vrai bonheur.
Et
à l'inverse, quand j'ai fait beaucoup d'ateliers, que je suis tout seul à peindre tout le temps,
t'as besoin d'interaction aussi.
Rééchanger avec des gens c'est chouette, quoi.
Et puis je me souviens que, alors peut-être moins ici, mais quand on était à Ernest Michel, tu venais quand même de temps en temps squatter l'atelier des gars. Et j'imagine que ça te nourrit aussi d'être dans un environnement comme ça.
Ah mais c'est ça. Moi, je pense que j'ai pas, en toute humilité, je suis mal placé pour donner des conseils à qui que ce soit, mais c'est vrai que je sais que beaucoup d'artistes peuvent être un petit peu dans ce cliché de l'artiste solitaire et tout. Et c'est quelque chose dans lequel j'avais tendance à être, que je peux toujours être un peu aujourd'hui. Et en fait, en venant un petit peu à Ernest Michel, voir les autres artistes, les copains, etc., j'ai réalisé à quel point on progresse beaucoup plus vite quand on a l'occasion d'être inspiré, mais aussi de confronter ses idées, de dire les gars, là j'ai une idée de toile, je vais faire ça avec cette compo, ces couleurs, mais je suis pas sûr. Et tu vas avoir un retour direct. Et en fait, c'est bien d'être en introspection sur soi-même, se dire qu'est-ce que je pourrais faire. C'est une très bonne chose, il faut le faire. Mais des fois, je pense que c'est nécessaire, et pour progresser plus vite et aller plus loin, je pense que c'est nécessaire d'aller vers les autres artistes.
D'avoir
un regard, quoi.
Ouais, bien sûr. Ça nourrit de toute façon. Mais c'est quelque chose que, enfin, moi, j'ai toujours vu en arrivant à Line-Up. Chacun se nourrit des parcours des autres, des introspections des uns et des autres. Et c'est aujourd'hui à Restant que c'est la même chose avec les artistes de Ernest Michel et avec les nouveaux qui sont arrivés ici aussi. Pour parler du coup de ton univers, comment tu le décrirais, cet univers? Quelles sont les inspirations qui nourrissent cet univers? Parce qu'il est quand même particulier. Il est assez. Je dirais qu'il y a de la mélancolie dans tes personnages, dans leurs les expressions. Tu vois, qu'est-ce qui se passe?
beaucoup, oui. Tout à fait. C'est une bonne question. J'ai l'impression que c'est toujours la question un peu périlleuse pour les artistes, alors que c'est celle qui fait le plus sens finalement.
Et puis nous on a des gens qui nous écoutent mais qui voient pas ce que tu fais.
On va leur
dire d'aller voir ce que tu fais, mais comment tu le décrirais aujourd'hui?
Effectivement, c'est un univers qui est bercé par une très grande mélancolie, c'est assumé. Il y a une grande part d'onirisme aussi, de rêverie, et c'est un univers qui se rattache vraiment à beaucoup à l'enfance et l'adolescence. à ces périodes-là de la vie, et il y a quelque chose de très entre guillemets un petit peu autobiographique. Moi je suis dans le figuratif, je vais souvent faire des personnages. Va souvent y avoir des personnages un petit peu sombres, décharnés. Mais je vais les mettre en opposition avec des symboles très innocents, des fleurs, des choses comme ça, parce que c'est ce contraste là que je trouve intéressant. Il y a un truc un petit peu, mais comme je pense beaucoup d'artistes, c'est très égocentrique, parce qu'il y a quelque chose de cathartique, quoi.
Oui, en fait, oui, hein, ça vient de toi après. Hein,
Je mets mes peines, mes angoisses, sur le papier ou sur la toile, quoi. Avec toutes ces influences dont on a parlé un peu précédemment, ouais. Donc, la bande dessinée, les mangas, l'illustration, mais aussi ce que j'ai pu faire dans la rue, quoi. Et j'aime bien, ouais, vraiment traiter de ce passage, en fait, de l'enfance à l'âge adulte, et cette espèce de deuil, quoi, de l'enfant intérieur.
Ok.
Et qui finalement résonne plutôt pas mal, c'est un petit peu malheureux, hein, mais avec les actualités récentes sur la polarisation de la société, notamment entre les hommes et les femmes, et ce truc très, c'est un petit peu cliché, mais beaucoup d'hommes d'âge mûr qui en fait sont incapables d'exprimer leurs émotions. Et parce que, quand on retourne à l'enfance, il y a eu des choses compliquées, des rêves qui ont pu être brisés. Mais j'essaie de garder quand même une touche d'espoir, parce que je comprends complètement, j'ai souvent la remarque de c'est beau, il y a quelque chose d'esthétique, c'est très gentil, hein, ça me saoule. Mais alors, c'est, oh là là, c'est sombre et tout. Et moi, justement, j'essaie d'apporter cette touche d'espoir. Je pense que ça va se voir à l'expo. Bon, là, je veux pas spoiler, mais par rapport au décor aussi qui va y avoir, et par rapport aux objets et symboles et différentes symboliques à travers lesquelles les personnages se confrontent. Et moi, justement, je vois plus le truc comme une espèce de volonté d'aller retourner dans l'enfance, guérir entre guillemets son enfant intérieur. Et justement, il y a quelque chose de positif, parce que pour moi, si on n'est pas capable d'affronter ces émotions-là, on est dans le déni.
Ouais, ouais.
Et voilà, ça donne des Andrew Tate, les masculinistes.
Ah, ouais, c'est marrant, justement, j'ai commencé le documentaire Netflix Manosphère, là où ça parle justement d'Andrew Tate, tout un programme. Donc c'est un peu le parti pris aussi de ton expo là que tu vas proposer au 411.
Oui. L'expo qui va s'appeler Missing, donc c'était porté disparu, quoi.
Ouais.
Et c'est un peu ça qu'on s'est dit qu'on allait l'appeler comme ça avec la galerie, parce que j'écris un petit peu, c'est pas du tout quelque chose que je montre, moi je montre mes productions visuelles, graphiques, dessins, peintures, etc. Mais j'écris un petit peu et j'avais eu cette réflexion, quoi. J'avais dit finalement, j'arrive à quelque chose qui me plaît en termes de maturité artistique, bien que ce soit, je considère que j'en sois qu'au début. Hein. Attention, je dis pas du tout que je suis un artiste accompli, que je suis le plus grand artiste de sa génération. Mais je touche un truc du doigt et je me suis dit, bon, en fait, c'est marrant, quoi. Tout ce que j'ai fait ces dernières années, c'était enquêter. C'est comme si j'avais mené une grande enquête, tu vois, sur la disparition d'un gosse. Mm-hmm. Mais en fait, c'était moi, ce gosse que je cherchais, quoi.
Okay.
Et donc, je me suis dit que ça, c'était intéressant. Ce truc de recherche de l'enfant intérieur. Et donc, après, il y a toute une narration, mais ça, je vais pas trop en dire, parce que.
Ouais, non, mais ce sera à découvrir pendant.
Je m'efforce de garder la surprise, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai ce parti pris. C'est subjectif, hein, parce que je connais des gens qui n'aiment pas du tout ce qui est mélancolie, qui trouvent que la nostalgie c'est un petit peu surfait, et je le prends pas du tout mal.
Après, il en faut pour tout le monde.
Exactement, hein, c'est ça. Mais c'est vrai que j'aime bien, par exemple, c'est André Tartarovsky, j'arrive jamais à me rappeler exactement, un réalisateur russe ce super connu là, qui a fait plein de films d'auteurs. C'est toujours un petit peu lent ce qu'il fait, mais
oui, je vois.
Il a marqué le cinéma, quoi. Et lui,
comment il s'appelle,
André
Tarkovsky,
c'est plus...
Mais je vois, ouais.
Bon, les gens peuvent trouver facilement, quoi.
Ouais, ouais.
Et lui, il avait dit une fois en interview, il avait dit, en fait, un artiste, il peut trouver le matériel dont il a besoin pour créer dans son enfance, et il peut se nourrir une vie entière de son enfance, quoi.
Complètement.
Et donc c'est un avis, hein. C'est subjectif, mais c'est vrai que moi je me suis dit oui, c'est ça, quoi, que je ressens, quoi. C'est que tout part de là, quoi. Tout est plus intense à cette période de la vie. Donc c'est ça qui m'intéresse, et j'essaie du mieux que je peux, en tout cas je l'espère, montrer une émotion. Moi c'est vrai que je suis pas forcément dans le très concret. J'allais dire que je suis pas dans le cynisme, mais de plus en plus, hein, je vieillis. Mais voilà, moi ce que j'aime, c'est le côté émotif, quoi. Tu vois, si je regarde un film, bon, j'avoue, ben moi ce que j'aime bien, c'est un film. Si un film il te fait chialer, pour moi, c'est que waouh, bien joué. Le réalisateur, là, il a accompli quelque chose, tu vois. Puis c'est des questions, voilà, que j'ai l'impression qu'on évite un peu de bon, ben, je sais pas, le fait de grandir, bon, ben, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, ben, en fait, c'est plus compliqué que ça. Tu vois, je pense par exemple à, pour les gens qui nous écoutent, je recommande à 100% un podcast qui commence à être assez connu, qui s'appelle Les Lueurs.
Ouais.
Il y a aussi des épisodes filmés sur YouTube. Mm-hmm. Podcast où, en fait, ils invitent des gens. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent aussi bien inviter des personnalités, donc des gens un petit peu connus,
ouais,
que des gens complètement inconnus. Et c'est souvent des gens avec des destins assez originaux, souvent un petit peu dramatiques, et le but, c'est de relativiser, de parler un petit peu de c'est quoi la réussite, c'est quoi la vie, c'est quoi la spiritualité, quoi. Et il y a eu à un moment donné, il y a un invité, c'est Olivier Delacroix. Mm-hmm. C'est ça, celui qui fait qui a une émission, ça commence à être un peu old school son émission, mais qui s'appelle dans les yeux d'Olivier, quoi. Et l'épisode, il est particulièrement intéressant. Moi, je connais, c'est pas trop ce journaliste,
ouais, ouais.
Quoi. Et lui, il a vécu des choses, bon, très très compliquées, et il dit un truc qui pourrait être un aveu de faiblesse, voire presque quelque chose, vu presque comme quelque chose de pathétique, mais que moi, j'ai trouvé remarquablement courageux, intéressant.
Ouais.
Il dit, en fait, moi, je me suis senti devenir un homme, 50 ans, quoi.
Ouais.
Il dit, en fait, j'étais un gamin dans un corps d'adulte, quoi. Mais je trouve ça beau, tu vois. Il a assumé sa vulnérabilité. Bon,
ouais,
faut écouter l'épisode pour comprendre, mais.
Ouais, je vois.
Mais je dis, putain, c'est bien d'avoir
après, la notion de devenir un homme ou une femme ou quoi, ça peut intervenir hyper tard parce que ça peut être un moment qui définit finalement ça. J'imagine souvent chez les femmes, c'est quand on devient maman ou ce genre de trucs-là. Enfin, d'événements marquants dans la vie. Et puis, tu parlais de l'enfance, ça c'est aussi hyper subjectif dans le sens où à quel moment s'arrête ton enfance finalement ?
C'est ça.
Est-ce que c'est à l'adolescence ? Est-ce que c'est quand t'es majeur ? Est-ce que c'est, je sais pas, quand tu quittes le domicile familial ? Enfin, ça peut être. C'est... L'enfance, elle peut être très longue, hein, finalement. Et puis, dans ce que tu dis aussi, c'est. Comme si on était dans le déni de finalement de ce qu'on a vécu quand on était enfant, on veut pas y revenir parce que il y a beaucoup de traumas aussi dans l'enfance. Et puis c'était, on était enfant donc on le balaye un petit peu comme ça. Mais comme tu dis, c'est aussi un moment où on vivait les émotions de manière très forte, très frontale, sans trop savoir des fois comment les analyser, comment encaisser. Donc non, c'est intéressant ce travail sur l'enfance. Et du coup, dans cette expo, tu proposes essentiellement des toiles.
De la toile et un petit peu de volume aussi, quelques œuvres en volume, et après toute une scénographie qui passe par des objets, et il y aura aussi je fais un petit peu de teasing pour le vernissage. Uniquement le soir du vernissage, il y aura aussi une projection dans le fond de la galerie, pas une projection de film ou quoi, mais il y aura une œuvre projetée en boucle. Bon, voilà, j'en dis pas plus, ça fera partie de toute la narration de l'exposition.
Donc toi, t'as imaginé aussi une expo un petit peu globale, pas juste 15 toiles accrochées au mur.
C'est ça. Je voulais trouver un compromis entre quand même quelque chose d'immersif, mais je voulais pas non plus faire quelque chose qui puisse être comme une rétrospective. Je voulais quand même garder un petit côté quand même entre guillemets galerie,
mm-hmm,
et que quand on regarde les œuvres, on soit pas perturbé par beaucoup de bruit.
Ouais.
Je sais pas si tu vois, t'as des expos qui sont super. Hein,
pas trop en mettre.
Voilà, c'est ça. Que quand même, que les gens puissent vraiment rentrer dans. Ah, t'es face à une toile. Bon, pas, tu rentres dedans, quoi.
Ouais, ouais, d'accord.
T'es
pas pollué, pas forcément par.
Ben, c'est ça. Je voulais qu'il y ait quand même que ça reste lisible et que les gens puissent vraiment prendre le temps de regarder et pas juste. Il y a plein de trucs à voir, on balaye tout. Il va y avoir du contenu.
Ouais.
Je vous le promets. Mais voilà.
Il nous reste deux petites minutes, deux questions. Pourquoi Kourou 222 ?
Kourou, c'est pas très compliqué, pas très glorieux. J'étais très jeune quand j'ai pris ce blaze. Je cherchais un blaze court, rapide. J'étais, comme beaucoup de gens de ma génération, un grand fan du Japon et mm-hmm. des mangas. Et à cette époque-là, je ne dessinais qu'à l'encre noire. Et c'est mon meilleur ami qui m'a dit, écoute, t'aimes bien les mangas du Japon, pourquoi t'essaies pas, je sais pas, noir en japonais, quoi. Et donc, en fait, Kourou, ça veut dire noir en japonais.
Ah, d'accord.
Okay. Et moi, j'ai pas cherché plus loin, j'ai dit, t'as raison, super.
Nickel.
Allons-y, quoi.
Très bien.
Allons-y.
222.
Alors, 222, ça, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer d'être concis. 222, c'est en rapport avec le 2. parce que c'est un chiffre qui a un peu marqué ma vie, dans le sens où mon père est irakien, ma mère est française. Mmh. J'ai passé mon enfance un peu basculée entre deux cultures. Mmh. Personnellement, bah pareil, j'étais un gamin très... Autant je pouvais être celui qui fait le clown qui fait rire la classe, que le gamin bizarre qui parle à personne et qui dessine dans ses cahiers. Donc j'aimais bien cette idée de dualité.
Dualité, ouais.
Et j'avais envie de le marquer en le mettant trois fois. J'ai quand même regardé la signification du 222 pour être sûr que...
Il n'y a pas de message un peu...
Non, c'est ça. Et puis, pour être très honnête, soyons transparents, c'était aussi vachement bien de rajouter 222 parce que des courreaux, il y en a plein sur Internet, plein de domaines.
Donc ça te démarque un
petit
peu.
C'est ça, courreau 222, normalement, si tu le recherches sur Google, c'est
ça
moi.
Ça va, tu tombes sur toi. L'expo, c'est quand? C'est où?
L'expo, c'est le vernissage sera le 9 avril à partir de 18h. C'est à Montpellier, à la galerie 411,
yes.
Avenue Clémenceau, qui a récemment eu la ligne de tram, la nouvelle ligne de tram de Montpellier, la 5, qui
tout
passe.
Tout à fait. Ouais, pas d'excuses. C'est dans le centre. Les copains de 411, on les adore, donc c'est l'occasion d'y aller. Et on finit là-dessus. Rendez-vous le 9 avril pour le vernissage de son expo Missing. Merci beaucoup, Kuro.
Ben, merci à toi, Laura.
À bientôt sur Terrain Vague.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.